streaming préférés et sur YouTube. Ce soir, je suis avec mes invités Dina, Stéphane Flocari, Léa Germano et Alicia Eyes pour parler, donc, on l'a dit, des cadeaux. Et juste avant, nous parlions des cadeaux qu'on se faisait presque à soi-même en s'offrant des accomplissements professionnels et tout. Mais est-ce qu'on peut aussi se faire des cadeaux matériels? Typiquement, quand tu commences enfin à être stable financièrement, ce qui n'est pas toujours une mince affaire, selon les professions qu'on choisit, est-ce qu'il y a eu un premier cadeau que vous êtes fait en vous disant « bon bah là, je mérite de m'offrir ça et tout ». Moi, je sais que par exemple, c'est la première année où je réussis un petit peu à rentrer dans mes frais au niveau économique et donc je me suis acheté une petite caméra pour Noël et je viens d'apprendre qu'elle est arrivée dans ma famille, donc je suis très contente, voilà.
Magnifique.
Alicia.
Non, j'avoue que je me fais pas vraiment de cadeaux et c'est vrai que c'est un travail que je fais sur moi-même. J'aime bien en faire à mes proches.
Ouais, de façon spontanée, sans occasion particulière.
Ouais, sans occasion particulière, mais en ce qui me concerne, je me dis que c'est pas forcément la priorité. Sauf que du coup, c'est-à-dire que je ne me choisis pas moi. Et donc, je fais un travail actuellement sur moi-même. Parce que des fois, il faut savoir se récompenser. Je trouve que les gens ont du mal un peu à le faire. Et, mais sinon, je sais que ça m'a marqué ça. Quand je suis devenue... Avant d'être Miss France, concrètement, je n'avais pas vraiment d'argent. Et c'est vrai que c'est Miss France à 18 ans, mais du coup, je suis devenue salariée. Et c'est là où j'ai eu des vraies rentrées financières tous les mois. Et avant ça, du coup, quand je m'achetais des vêtements, ça ne dépassait pas 10 euros. Parce que je faisais avec les moyens que j'avais.
Bien sûr.
Et je me souviens que je suis allée au printemps avec ma tante. Moi, j'avais trop peur. Je me disais, mais tout coûte cher. C'est pas possible. Parce que je gardais ma mentalité d'avant, mais du coup, pas avec les mêmes finances.
Ouais.
Et je me souviens qu'elle m'avait fait acheter, que je m'achète un pantalon noir à 150 euros. Ça m'avait choquée.
Je suis dans un autre monde.
Non, mais ça m'avait choquée. Je me disais, mais c'est pas possible. Mais en fait, si, parce que de un, tu le mérites. T'as travaillé pour et c'est bien de faire plaisir aux autres, mais il faut savoir se faire plaisir à soi aussi.
Bien sûr.
Et d'ailleurs, ce pantalon à 150 euros, je l'ai toujours jusqu'à aujourd'hui.
Tu l'avais bien choisi alors,
oui,
parce que parfois
choisi.
On achète des
c'est
trucs
ça.
Chers
non, mais
qui
ça,
sont
voilà,
qualité.
C'est de la qualité, mais en gros, franchement, ça c'était mon premier vrai cadeau. Enfin, pas vrai cadeau, il y en a eu d'autres, mais un cadeau où je me suis dit, à partir de ce moment-là, je me suis dit, n'aie pas peur de dépenser pour toi. Voilà.
Et t'arrives à être fière de toi, du coup.
Oui. Bon, après, juste, j'ai perdu entre-temps le fil en ne me récompensant pas à des moments, des fois clés. Parce que c'est vrai qu'avec Miss France, je pense que ça s'est un peu inséré dans ma manière de voir les choses. Mais comme j'accomplis beaucoup de choses, du coup, je normalise tout et je minimise tout.
Bien sûr, on s'habitue, on se blasme. J'en parle beaucoup avec tous les artistes qui viennent, qui sont de différents horizons ici à cette table. Et en fait, il y a vraiment un truc, quand on est loin de tout ça, dans son milieu social d'origine, dans son milieu géographique d'origine, on voit la réussite artistique avec des paillettes dans les yeux.
Ouais.
Et dès qu'on a un petit pied dans cet engrenage et dans ces milieux, en fait, on va être amis avec d'autres gens qui réussissent tout aussi bien, voire mieux, qui ont tout autant de notoriété, tout autant d'argent, et souvent beaucoup plus, parce qu'on le disait, il y a quand même beaucoup de Nepo Babies. Et en fait, on se blase complètement.
Oui,
on est, je sais pas, par exemple, j'imagine en tant qu'artiste, t'es booké pour tel concert, t'es là, ah bah oui, mais tel pote a fait ça, enfin en vrai, c'est cool, mais ça va. Ah,
ouais.
J'ai gagné telle récompense sur mon livre, mais bon, tel autre a gagné le Goncourt.
Ouais.
Ah, j'ai tant d'abonnés sur Instagram, ah mais machin. Enfin, c'est un truc.
Moi, j'essaie de pas me comparer.
Bah, c'est ça, il faut réussir à rester.
Mais parce que j'ai jamais voulu être là-dedans, parce que déjà, du fait du milieu où je venais, je savais que si je commençais à me comparer, j'allais être triste
perdre,
en fait.
Ouais.
J'allais tout le temps perdre, donc ça allait pas marcher, mais par contre, il y a quand même ce truc que tu disais où tu réalises plus. C'est pas minimiser par rapport aux autres ou quoi, mais c'est juste, il y a tellement d'infos que bah là, tu vois, par exemple, au début, quand j'ai fait mon premier concert, c'était pas un énorme concert ou quoi que ce soit, mais c'était mon premier concert. J'étais comme une folle, je disais à tout le monde, waouh, je vais monter sur scène et tout.
Ah, c'est...
Et après,
c'était
en plus,
où ce premier concert du coup?
C'était au Biz Festival à Nantes. Un festival un peu pro et tout, mais franchement, c'était grave cool.
Mais c'est charmant, c'est comme les transmusicales à Rennes qui viennent d'avoir lieu, c'est des opportunités énormes pour les artistes.
Et après, moi aussi, je pense que ça vient du fait aussi de mon parcours, c'est que cette année, enfin, c'était ma première année de concert, je crois que je suis allée au Printemps de Bourges, j'avais même pas 10 concerts dans les pattes. Donc c'est vrai que c'est toujours un peu difficile. C'est sûr que quand on m'appelle pour me dire tu vas jouer la dernière fois, je joue à Langogne dans une salle des fêtes avec un public de moyenne d'âge de 70 ans, tu vois. J'étais pas hypée par le truc, je le voyais pas comme un truc de ouf. Mais par contre, j'essaye toujours de me dire que ça reste quand même quelque chose d'aussi cool que de faire Bourges ou quoi. C'est un truc que je me suis tout de suite mis dans la tête parce que quand on m'a envoyé là-bas, j'ai fait non mais les gars, vous me faites jouer au Rose Festival, vous me faites jouer au Printemps de Bourges. Je dis mais l'année prochaine, quelles vont être mes envies, puisque j'aurais déjà tout fait et les trucs vont me paraître chiants. Et finalement, bah, pas du tout.
C'est le public, juste... tu préviens que c'était première scène, du coup, ou tu dis rien et t'arrives à
Je crois que je l'ai dit jusqu'à mon quatrième ou cinquième concert. J'étais là, bonsoir, c'est mon cinquième second concert ce soir. Mais après, non, c'est bon, on va pas non plus s'excuser à chaque concert.
Bien sûr.
Mais ouais, c'est assez marrant. Mais c'est marrant ce que tu disais aussi tout à l'heure par rapport au cadeau, parce que j'ai vraiment eu le même schéma de truc, je me suis jamais fait un cadeau pareil niveau des fringues pour moi payer. J'ai encore du mal à m'acheter des fringues, payer plus de 10 euros un t-shirt ou plus de 20 balles un pantalon, pour moi ça paraît excessif. Et c'était ma première paye, enfin paye de McDo, plus de crous, machin, pas un truc affolant quoi. Et je m'étais dit, ah, faudrait peut-être que j'arrive à m'acheter quelque chose pour moi, parce que je fais toujours des achats, j'ai acheté des guirlandes pour mon appartement, ou des trucs comme ça, mais est-ce que je fais un truc vraiment dont j'ai besoin ou dont j'ai envie, moi? Et je m'étais acheté une paire de Buffalo sur Vinted, et ça m'avait fait bien rire, parce que j'avais capté après que c'était pas une envie, en fait, finalement, que c'était un besoin. Et j'ai toujours ce truc-là de, j'ai l'impression de me faire des cadeaux. Mais en fait, c'est pas un cadeau, c'est juste que ça fait tellement longtemps que j'en ai vraiment besoin que je suis là, ok, vas-y, c'est mon jour, je me fais un cadeau, mais ça devrait pas être un cadeau. Ça devrait
Après,
être un truc
si
normal.
Je peux faire l'ancienne et te donner un mini conseil, sache bien un truc, c'est que dans tous les milieux de public où en fait tu te retrouves à être une personnalité publique, tu peux demander à des marques, etc., de te donner ou prêter des vêtements. C'est juste que quand tu ne viens pas de ces milieux-là sociaux, tu n'oses pas, ce n'est pas naturel d'aller demander « je mérite le meilleur, donnez-moi des trucs ».
Mais c'est une
sache bien que les gens qui viennent de milieux sociaux aisés, les gens qui viennent de milieux sociaux riches, ils osent le faire. Hein.
Moi, je me posais la question, parce que tu vois, il y a une artiste que je connais bien qui s'appelle Nae, qui fait de la super musique d'ailleurs.
Qui est déjà venue et qu'on adore, qu'on embrasse aussi.
Et je voyais tout sur ses réseaux qu'elle faisait pas mal de pubs, collab, que ce soit des produits cheveux, des vêtements et tout. J'étais là, mais qui la démarche?
Demande-le.
Et moi, j'attends.
Super gentille,
depuis un an, j'attends juste que les marques me voient et soient là. Hey, tu veux des produits? Mais en fait, il faut envoyer soi-même.
S'il y a des marques qui nous écoutent, parlez à Dina.
Je suis là.
En vrai, ça aussi, c'est un engrenage. Et ça, c'est intéressant aussi pour les gens qui écoutent d'avoir un peu les coulisses de l'influence. Mais c'est vrai que quand les marques commencent à repérer que tu travailles avec des marques, ils voient un premier partenariat. Ils se disent, ah, mais en fait, cette personne accepte de travailler des marques. Elle arrive à faire des contenus comme ça. Bon, ben, go, je vais lui écrire. Alors que sinon, si t'as jamais travaillé avec aucune marque, personne ne va avoir la vision sur toi. Mais en revanche, par rapport à la gratuité des trucs, je tiens vraiment à insister. Moi, je me suis rendu compte un jour qu'il y avait plein de gens qui avaient beaucoup moins d'abonnés que moi et qui avaient fait beaucoup moins de trucs, et c'est pas grave du tout, mais qui avaient plein de trucs gratuits. Ouais. Parce qu'en fait, ils osaient demander. Mais moi, dans ma tête, la façon dont j'ai grandi et tout, c'est hyper gênant d'aller demander quelque chose et d'aller tout. Et en fait, c'est juste que on vient pas forcément des milieux qui évoluent ici dans les sphères parisiennes et qu'on n'ose pas.
Mais en fait, c'est marrant, les. Moi, ça fait un an que je vois toutes mes barrières
pour prendre un vocabulaire.
S'éteindre, se casser, et tu vois comment les gens vivent et tout, tu te dis, ah, mais c'est ça le quotidien des gens, en fait.
Mais
ouais, bah non, en fait, ça me dérange plus d'aller demander. Y a pas, je vais faire ça en rentrant.
On parlait d'accomplissement pro et de récompense. Alicia, quand t'as eu ton premier titre, Mojo, qui a eu un big, big succès, même là, tu t'es pas dit, allez.
Non.
J'étais trop de pousser, je fais, et là, t'as pas fait.
Non, mais après.
T'étais surprise d'ailleurs quand tu t'es lancée, du coup, dans la chanson, que ça marche directement comme ça?
En fait, mon producteur, il peut vous dire, même jusqu'à aujourd'hui, des fois, il m'envoie des stats et tout. Du coup, je lui dis, c'est bien, parce que je réalise pas.
Comparatif.
Ouais. Et du coup, c'est lui qui est tout le temps en train de me dire, mais je crois que tu réalises pas, t'as pas fait de scène. Enfin, il y a eu des festivals et tout qui m'ont fait des propositions, mais je me sentais pas encore prête à ce moment-là quand Mojo est sorti. Mais il me dit, sans avoir fait de showcase, de scène, de représentation ou autre, ben, t'as déjà autant de streams sur ton son. Sûr. Il me dit, mais imagine quand tu vas enfin oser le faire, le résultat. Donc, en fait, pour l'instant, je suis contente, mais je pense que je ne suis pas encore assez contente parce que je ne réalise pas vraiment ben, des résultats, quoi. Même s'ils parlent d'eux-mêmes.
Mais quand tu feras des concerts, il a
raison. Peut-être que quand je serai vraiment au contact de mon public et du coup, et que j'aurai pas juste des chiffres devant moi, là, je vais pouvoir mettre du coup des visages sur ces chiffres affichés là, sur ces stats. Et là, je vais me dire, waouh, parce que là, il y aura de l'émotion, il y aura un vrai partage. Ouais.
Stéphane, toi, tu as l'expérience évidemment du public via les cours que tu donnes. Mais en tant qu'auteur, comment est-ce qu'on fait pour réaliser en fait qu'on parle à des gens et que ce qu'on fait touche des gens? Parce qu'il n'y a, pas en fait cette expérience scénique d'osmose directe avec le public. Comment ça fonctionne?
Alors, le métier d'écriture, qui n'est pas vraiment un métier, en tout cas moi je ne le pratique pas comme un métier puisque j'enseigne à l'université, au lycée, c'est une vie de solitude. C'est une vie de solitude. Moi, je suis très entouré, hein, je vois plein de gens et tout. Mais c'est beaucoup, beaucoup de plongées, d'apnées solitaires qui sont absolument indispensables. Il faut d'ailleurs même les faire admettre à son entourage, dans le principe que tu pars 15 jours là. Je me rappelle, pour certains de mes bouquins, je partais 15 jours là et ma mère me disait, mais... comment elle s'appelle ta meuf? Je disais, mais elle s'appelle écriture en fait. Je pars tout seul. Je me rappelle une fois, je suis parti à Budapest pendant une certaine période et tout. Mes parents étaient incrédules que je puisse partir seul et emmener personne dans mes bagages. Donc, c'est des longs moments dont tu as absolument besoin d'isolement, de créer une routine. Moi, par exemple, je fais du sport, je mange équilibré, je marche, etc. Et puis, après, tu vas à la rencontre des gens. Et alors là, c'est pas le cadeau, c'est au-dessus, c'est le miracle. C'est-à-dire, en fait, quand t'as créé quelque chose individuellement, ça peut être une chanson, ou une page, ou un livre, ou un chemisier, ou n'importe quoi, et que les gens sont touchés par ce que t'as fait, ah, c'est une expérience incroyable. Une fois, je me rappelle, un type, je signe des bouquins dans une librairie, et j'avais écrit le livre sur le football, pourquoi le football. Et le type, il me dit, ouais, j'aime le football, j'aime le même football que vous, j'aime le football de cette époque dont vous parlez. Parce que moi, j'ai écrit ce bouquin pour fermer le bec de mon fils le plus grand, qui me fatiguait avec ses dollars, avec son Dubaï, avec ses Cristiano Ronaldo et tout ça. Et moi, je lui ai dit, le football, c'est une éducation, c'est une aventure, c'est être avec les autres, c'est un plaisir, c'était ça pour moi le foot. Et un type m'a dit, j'aurais aimé écrire le livre que vous avez écrit, c'est le livre que je voulais. Et donc, y a un deuxième moment, mais il ne faut surtout pas l'attendre. Il faut qu'il soit complètement inattendu. Il faut même pas, l'imaginer avant, parce qu'il est inimaginable avant. C'est tu fais pour faire. C'est ce que disait Montaigne dans les essais. Il faut planter des choux pour planter des choux. Et c'est comme ça, si des voleurs viennent te voler tes choux ou si la grêle vient les détruire, tu seras pas déçu parce que tu les avais plantés juste pour les planter. Ouais. T'en attendais rien d'autre. Donc il faut agir pour agir. Et c'est comme ça qu'on se trouve en fait. C'est comme ça c'est le cadeau qu'on peut se faire à soi-même. Alors, pour enfoncer le clou de ce que vous disiez avant, et moi, j'ai jamais eu peur de me faire des cadeaux à moi-même. Peut-être que parce que, d'une certaine manière, j'ai cru en moi, peut-être, d'une certaine façon, même si ceux qui sont proches de moi, en tout cas, quand je suis dans des moments de création, rigoleraient de m'entendre dire ça, parce que personne ne doute autant que moi et ne s'inquiète de la page jusqu'à la dernière minute. Mais par exemple, ça me brûlait les lèvres quand tu as posé la question tout à l'heure, la première fois que je suis passé à la radio, je suis venu dans cette maison, à la maison de la radio, je suis arrivé une heure en avance et je tournais autour et je suis tombé devant un magasin où ils vendaient des gants en cuir et en cachemire. Et je me suis acheté des gants en cuir et en cachemire à 110 balles.
Pour te rappeler et les lier.
Et pour me retenir le moment, et je vous promets, ils sont dans mon sac, les gants.
Ah, wow.
Et je les ai avec moi, je les emmène. C'est pas des fétiches, emmène pas le 15 juillet quand je viens à la radio, mais j'aime bien les avoir en décembre. Entre faire plaisir, se faire plaisir, être pour soi une source de plaisir pour les autres, beaucoup de choses différentes se jouent, parce que nous sommes plusieurs choses, nous sommes plusieurs êtres à la fois. Quand je me fais plaisir, je me prends moi-même pour objet, je me vise moi-même. Mm-hmm. Et pour ça, il faut avoir une épaisseur de vécu, il faut avoir passé du temps, il faut avoir peut-être souffert, il faut avoir accepté aussi certaines étapes et avoir reconnu des choses. Mais je reste convaincu que c'est encore plus beau, quoi, de faire des cadeaux aux autres, parce que c'est aussi des cadeaux à nous-mêmes. Et quand tu peux offrir, faire briller les yeux de quelqu'un que t'aimes, c'est extra, quoi. C'est le top.
Ah, c'est marrant que tu dis ça. Moi, je pense que mon plus beau cadeau, c'était récemment là, ma petite sœur que j'ai emmenée à Noël. Enfin, à Noël, n'importe quoi. que j'ai emmené à Disney il y a quelques semaines et on se voit jamais. Et en fait, je pense que au-delà de elle, je pense que ça a dû être un beau cadeau pour elle. En plus, elle habite juste à côté. On s'est vu, je pense, 4 fois dans notre vie, vraiment à tout péter à coup de 2 jours par-ci par-là. Et là, je l'ai revue. Elle a grandi de ouf à 15 ans. Je dis waouh. Bah viens, on va à Disney toutes les deux. Et je crois que c'est un des plus beaux cadeaux que je me suis fait de lui faire plaisir, de me dire ouais, c'est ce moment-là de complicité qu'on n'a jamais eu entre sœurs. C'est vraiment un truc de ouf, en fait, de pouvoir faire plaisir aux autres. Des fois, comment ça satisfait son bien-être personnel.
Et ton lapsus était génial parce que t'as dit Noël à la place du cadeau. Ouais. Et c'est ça.
T'as offert un esprit.
Exactement.
Tout de suite, Thiomont, on va faire une petite pause musicale avant de poursuivre sur les cadeaux. Et on va parler de cette fameuse question des Secret Santa et des cagnottes. Ah. Attention, c'est toujours sujet à débat. Mais tout de suite sur Move, avant tout, c'est Elena, mauvais garçon.
Mauvais garçon me rabaisse. Me dit que je suis pas belle comme ça, que je sais rien. Qu'il est jamais heureux avec moi. Mauvais garçon me dénigre. Me donne tous les noms d'oiseaux. Mais les oiseaux, eux, sont libres. Plus son amour est une prison. Mais moi je reste. Dis-moi pourquoi je reste. Avec mauvais garçon. Faut que j'arrête. On me dit faut que j'arrête. De voir mauvais garçon. Mauvais garçon tient les fils. C'est moi le pantin. Un jour sur deux il est mignon. Un jour sur deux il est pire qu'un mauvais garçon joue les durs. Et moi j'apprends les lois de l'amour et j'y connais rien. Et plus il me fait marcher et plus je cours. Mais moi je reste. Dis-moi pourquoi je reste. Avec mauvais garçon.
C'était Damso sur Move, le talent ne suffit pas.
Tunnel, tunnel, le bruit et l'humeur.
Et bienvenue dans Tunnel. Ce soir, nous parlons des cadeaux avec mes invités Alicia Elias, Léa Germano, Stéphane Flocari et Dina. Et je me tourne tout d'abord vers la chef d'entreprise de ce plateau, Léa, Léa Germano. Est-ce que tu imposes à ton staff des secrets de Santa?
Oui, j'adore.
Ok.
C'est incroyable.
Alors, du coup, on est plutôt pour de ce côté-là.
Moi, je suis très, très pour. Je suis très pour parce que c'est rigolo. Enfin, créer du lien dans l'entreprise, c'est pas évident. Moi, j'ai vécu beaucoup d'environnements toxiques dans la mode, donc j'ai eu à cœur de créer une entreprise où vraiment j'ai tellement été choquée par plutôt mon vécu avant que j'allais très fort dans l'autre sens à essayer de créer quelque chose de sain où les gens se sentent écoutés. Et donc, tous les moments que je peux facilement mettre en place pour créer. Autre chose que des discussions autour du boulot, évidemment, j'y vais à fond. Et je trouve que c'est facile, parce que c'est pas... voilà, on met un budget entre 5 et 10 euros. Bah nous, on l'a fait hier, donc c'est drôle que t'en parles. J'ai décalé.
Qu'est-ce que tu as reçu ?
Mon déjeuner devait être aujourd'hui, il était hier. J'ai reçu un kit pour mon vélo, de mon ancien CTO, qu'on a convié quand même au déjeuner de Noël, et qui est très gentil d'avoir pensé à mon petit vélo.
Et qu'est-ce que tu as offert ?
Et moi, j'ai offert des cadeaux un peu un télo chiant, alors qu'ils sont tous offerts des produits de beauté. J'en ai offert deux parce qu'on a une petite nouvelle dans l'équipe et au lieu de ce qu'elle se retrouve toute seule, j'ai fait deux cadeaux. Un petit cadeau sur des mots d'un philosophe sur la mode. Alors, je sais même plus qui est l'auteur, que je vais mentionner incessamment sous peu. Parce que voilà, à la personne dans mon équipe qui rédige le plus pour lui dire voilà, toi et moi on passe notre temps à chercher les bons mots, ben ça fait 200 ans que les gens cherchent en fait sur la mode et ce sont que des cycles. Donc voilà, j'ai essayé de le lire d'ailleurs dans les 10 minutes avant de lui offrir pour avoir des trucs intelligents à dire et j'ai offert un petit soupe plat peint à la main par une artiste qu'on avait exposé voilà à mon autre stagiaire.
Ok. Les secrets de Santa autour de la table, est-ce que vous avez des...
Moi je suis mitigée. En fait, je trouve que c'est cool quand c'est pas imposé.
Ouais.
Moi, ça m'est arrivé. Yannick, si tu vois cette interview, je suis désolée. je travaillais à Intermarché là, jusqu'à il y a peu que j'ai arrêté de bosser et que je me suis focus sur la musique. Et je venais d'arriver dans l'équipe et tout. Et en fait, j'étais absente la semaine. Forcément, où ils ont parlé du Secret Santa. Ils me disent bon, Dina, on fait un Secret Santa, on a mis ton nom dans la boîte. Et je suis là, ah, ok,
cool.
Cool. Et du coup, je suis obligée de faire un cadeau parce que forcément, quelqu'un m'a pris, donc quelqu'un va me faire un cadeau. Et en plus, j'étais tout le temps absente et tout. C'était une vraie galère. Et le gars, je le connaissais pas du tout. Et je me suis dit, ok, qu'est-ce que je peux lui acheter? Donc j'ai fait toutes mes petites enquêtes et tout. C'était à Martinique, je crois. Je me suis dit, vas-y, je vais acheter une bonne bouteille de rhum. Ça va lui faire plaisir. Et au final, on l'a bu.
Oh waouh!
Avec lui au moins?
Non, non, en fait, lui, il y avait tout un délire.
Je reçois une bouteille vide et joyeux Noël!
En fait, j'ai jamais rien osé du coup déposer parce que j'étais absente la semaine des Secret Santa. Donc, ils avaient fait un repas d'équipe, etc., avec tout le monde qui se donnait les cadeaux, machin. Donc, moi, j'étais pas là, je pouvais pas être là. Et je dis, écoute, je te donnerai le cadeau quand je reviens, quoi. Et en fait, j'avais pas de cadeau et j'ai pas eu le temps d'en racheter. Et j'ai juste laisser le truc se tasser en mode désolé Yannick, franchement je ne sais
écoute,
que dire mais c'est vrai que c'est un peu gênant le fait d'être imposé comme ça là sur une équipe où si ça se passe bien et que l'ambiance est cool, que tout le monde se connaît un peu, je trouve ça vraiment chouette parce que comme tu dis ça crée du lien et tout, ça permet d'être cool, mais quand t'as pas choisi, que t'es pas prêt à ça, c'est chiant.
Après même dans les bandes de potes ça peut être la sauce. Moi je me rappelle j'avais toute une bande de copains à Arlon, donc dans le bas de la Belgique, proche du Luxembourg.
J'ai bientôt un concert là-bas, je crois.
Ouais, j'ai vu, tu vas à l'entrepôt d'Arlon.
Ouais.
J'ai vu, ça, tu vas être très bien là-bas.
Allez.
Je vais faire passer le mot en plus.
Parfait.
Donc j'avais toute une team avec qui on faisait Noël juste avant Noël, histoire de bien se contaminer avant de retrouver nos familles. Et on avait fait un Secret Santa, et en fait, je pense qu'on était 25 dans la team, donc forcément, t'as des gens avec qui t'es plus potes, d'autres avec qui tu les minces. Et en fait, la personne qui m'a attiré, c'était l'ex de mon coloc, donc qui était mon bête de pote, donc en gros, elle avait le démon contre nous. Et du coup, elle m'avait offert, moi j'avais acheté un super cadeau, je sais plus ce que c'était, mais je sais que je m'étais chauffée.
Okay.
J'avais acheté un super cadeau à la personne que j'avais pioché, et elle m'avait offert, genre, sans emballage ni rien, des boucles d'oreilles, je crois que c'était genre AliExpress ou je sais pas quoi, mais encore sur le présentoir comme ça, enfin en mode tiens quoi. Et j'étais en mode
ah okay. Super.
Et genre vraiment c'était juste en mode ah bah oui pardon,
ça a mis un espèce de malaise, c'était terrible.
Et du coup, ça, c'est propre au Secret Santa ou c'est propre aux cadeaux en général, mais qui sont un peu malaisants par,
non, mais toi, il y a une bonne ambiance dans ta team, mais j'imagine des grosses entreprises où t'as potentiellement des gens qui s'apprécient pas trop, des collègues qui se piochent entre eux alors qu'ils ne s'entendent pas et tout. Et c'est plus sur ça que j'imagine ce truc. Ou alors, je vois beaucoup de TikTok aussi sur la vie en entreprise, sur les cagnottes de retraite, par exemple, ou les cagnottes d'anniversaire, de départ, de machin, auxquelles il faut cotiser alors que tu connais pas la personne. Et je me dis toujours, waouh, ça a l'air tellement chelou.
Ah, alors, surprise. Ouais. C'est un monde bizarre déjà.
Ça a l'air bizarre.
Hein. Ouais, y a des codes un peu que tu...
Tu t'es retrouvé à cotiser sur des départs à la retraite, par exemple, de gens que tu connaissais pas ?
Moi, je mets toujours au pot des cagnottes parce que j'ai pas de temps, en fait. Ouais. Je suis ravie qu'on m'offre ce temps à ne pas réfléchir à un cadeau. C'est un peu lâche, en fait. C'est un peu égoïste. Mais j'adore mettre de l'argent dans les cagnottes. J'ai pas à y réfléchir plus que ça.
Et les cagnottes, de façon générale, le moment... Alors, je sais pas comment c'est dans votre entourage. Chez moi, c'est plutôt septembre, octobre, novembre, où on vous demande de participer à 10 cagnottes par mois. Est-ce que vous cédez ou est-ce que vous ne voyez pas le message ?
Ah moi j'ai pas de, il y a personne m'a jamais demandé de donner dans une cagnotte. Non.
Genre quand tu vas approcher la trentaine, quand tu vas avoir du
tête généralisée à ce moment-là. Non, franchement, par le Secret Santa avec mes beaux-parents qui me stressent un peu là, j'avoue.
C'est vrai ?
Ouais, ils font ça dans ma belle famille, donc du coup je vais fêter Noël chez eux comme on fait pas Noël. Et ben un cousin inconnu au bataillon.
Ah waouh.
Donc,
qu'est-ce que t'offres ?
Je ne sais pas. Je n'ai encore pas fait mon choix. Et en plus, enfin, c'est pas comme si sa belle famille le connaissait aussi super bien. Et j'ai demandé à ma belle-mère, elle me dit, bah, je sais pas trop. Je vais appeler sa mère.
Mais qu'est-ce qu'on offre justement à quelqu'un qu'on connaît pas, en fait ?
Ils ont inventé les wishlists. Je sais pas si vous en avez fait les frais ou vous êtes content d'utiliser ça. Mais moi, dans ma famille, depuis qu'on a commencé à piocher des gens, parce qu'on était trop. Tu renseignes ta liste de souhaits. Donc c'est vraiment ta lettre au Père Noël, digitale, un petit peu gênante.
Ah
parce
non,
que
ce serait trop simple.
Tu mélanges directement des
liens. C'est comme les listes de naissance ou de mariage, mais pour soi-même.
C'est super, en fait. Parce qu'on parlait du cadeau idéal tout à l'heure. En fait, trouver le cadeau idéal, c'est une mayonnaise parfaite entre quelque chose de personnel à toi et à la personne qui va dans une rencontre et un équilibre dingue. C'est très dur, en fait. Parfois, quand tu veux convoquer un super cadeau pour ta meilleure amie, pour ton mec, parfois, t'as pas d'idée.
Ouais, et t'as beau, est-ce que si t'as fait une wishlist, justement, ça perd pas le truc magie du cadeau, parce que tu sais que tu vas forcément avoir un des cadeaux sur ta wishlist.
Oui, mais est-ce que tu n'as pas déjà reçu des choses atroces à Noël ? Est-ce que tu n'aurais pas préféré que quelqu'un...
Lana Brevet,
si, une paire de chaussons Lidl,
est-ce que tu n'aurais pas préféré quelqu'un clique sur le lien
celle-là.
De ton fer à boucler.
Je n'aurais pas eu le choix, elle avait 14 ans, 13 ans.
Non, mais en fait, c'est un peu pour remplacer cette espèce de mascarade de on sait tous, on a passé beaucoup de temps à penser à chaque personne, on sait très bien, on connaît ses désirs, on la connaît par cœur. Dans une famille, en plus, c'est pas vraiment le cas. Oui, on n'est pas trop à date sur ce qu'aime la personne en ce moment. D'ailleurs, on la voit pas souvent, on est gêné de se voir qu'à Noël. Vraiment, je trouve que ça enlève un peu de pression.
J'avoue que dans ce contexte-là, c'est
pas des choses qui ont du sens. Bah oui, tu m'as demandé un bougeoir, mais je suis allée chercher un joli bougeoir.
Et est-ce que d'ailleurs, il faut offrir des cadeaux aux gens de notre famille qu'on n'aime pas ?
Non.
Non. Est-ce qu'il faut se forcer à les fréquenter de façon générale ?
Non plus.
Tu connais ça dans les familles, des fois, c'est ah oui, mais c'est quand même, je sais pas, ta tante, ton oncle, ton cousin,
non, moi je me force à rien. Et comme je suis très expressive, j'ai annoncé la couleur très rapidement.
Donc si t'arrives à un repas de famille et qu'il y a un des membres de ta famille que tu n'es pas forcément fan, tu vas pas forcer parce que c'est la famille et qu'il faut se forcer.
Non, enfin déjà.
Non, mais je suis comme toi, mais ça fait polémique dans ma famille, donc.
Déjà, j'ai très peu de membres de ma famille ici. Ils sont tous en Martinique, Guadeloupe, Guyane, donc je suis très peu confrontée à ça. Et quand on est là-bas et que ça peut arriver, très souvent, j'ai quelque chose à faire. Je suis pas là.
Okay. Je suis malade. Ouais. Mais Stéphane, comment on explique philosophiquement ce truc de devoir inconditionnellement aimer sa famille alors qu'en fait c'est un pilier de la société, c'est une convention qui est nécessaire.
Alors sans doute la famille elle a beaucoup évolué disons dans les deux derniers siècles, plus encore dans le dernier siècle et énormément dans le dernier demi-siècle puisque maintenant l'enfant est au centre, l'enfant est la pointe ultime de la famille. C'était pas le cas pendant très longtemps. Pendant très longtemps, les enfants, jusqu'à la fin de l'Ancien Régime, jusqu'au 19e siècle, les enfants étaient quantité négligeable, on n'osait pas trop les fêter. Et d'ailleurs, une partie d'entre eux mourait très tôt, puisque à la Révolution française, 4 enfants sur 5 meurent avant d'avoir atteint l'âge de Dinah. Donc, c'est-à-dire avant d'avoir atteint
l'âge de Dinah. J'aime bien ce repère.
Ce repère, parce qu'elle elle est la jeunesse.
Tu es la jeunesse de ce plateau.
La famille contemporaine, elle se reconstitue autour de l'enfant. Ce qu'il y a de spécifique dans Noël, c'est ce que je ne cesse de répéter depuis que je fais ce livre, c'est que Noël n'est pas une fête de famille, c'est une fête de la famille. Donc c'est une fête dans la famille, où la famille se fête elle-même.
Bien sûr.
Donc là, c'est pour ça que c'est si angoissant pour beaucoup de gens, parce que c'est le moment où la famille se teste elle-même dans son caractère de famille. Donc en fait, cet oncle dont tu parles, le relou, à qui t'as pas envie d'offrir un truc... En général, souvent, comme il n'est pas trop là, l'oncle, pourquoi ? Parce que c'est une fête du foyer, c'est une fête du home sweet home. Donc tu retournes chez tes parents. Le vrai problème, je pense, commence... Moi, je ne le connais pas encore, mais je sais qu'il commence pour beaucoup de gens. Quand tes parents ne sont plus là, et où là, la question se retrouve quand tu es face à face avec tes frangins et tes frangines, de savoir est-ce qu'on continue à faire Noël, ou bien est-ce que moi, maintenant, je me replie, comme ils l'ont fait eux-mêmes après la disparition des leurs, sur leurs gosses, etc. Moi, j'ai connu les grands Noëls des années 80, où mes parents étaient, entre guillemets, nouveaux riches, et donc pouvaient un peu arroser autour, et en plus, ils étaient généreux et hospitaliers. Donc, on invitait tous les oncles, on dansait, c'était la farandole, c'était le bordel, on buvait trois bouteilles de...
On buvait des blagues de bigard.
Non, ça c'était beaucoup plus tard. Quand mon frère avait grandi, mais tu vois, on buvait en cachette 2 litres de coca ou 2 litres de banga dans un coin, et on mangeait 4 fois du gâteau. Bon, mais ça je crois que c'est un peu fini, c'est-à-dire ça s'est quand même beaucoup replié sur les foyers. Alors des fois, quand les enfants arrivent après avec leurs conjoints, ça se regarnit, ça se réétoffe.
Ouais,
parce que là, quand tu deviens parent, chacun a un mec ou une nénette, et donc ça fait du monde autour de la table. Mais je crois qu'on n'est pas, je pense qu'aujourd'hui c'est quand même assez passé dans les mœurs, qu'on n'est pas obligé, s'il y a 20 convives, d'offrir ça et un cadeau à tout le monde intégralement. Tu peux un peu choisir, et de plus en plus, les gens sont responsables et font des tirs groupés. Ou des tirs ciblés. Toi, tu l'offres à un tel, moi, j'offre à un tel. Je crois que l'esprit de Noël et l'esprit du Père Noël, pour en parler. Moi, c'est comme ça que je l'explique. Et comme ça que je l'expliquais à mes enfants quand ils étaient mômes. Quand ils ont compris, quand ils étaient petits, que le Père Noël n'existait plus vraiment, ils me disaient, mais qu'est-ce qui reste du Père Noël ? Ce qui reste du Père Noël, c'est que personne ne doit se retrouver sans cadeau. C'est ça l'idée du Père Noël. C'est l'idée de quelqu'un qui vient dans toutes les maisons et que tout le monde ait un cadeau, quel que soit son âge, sa condition et le niveau social. Et moi, je vais vous dire, je me marre bien tous les ans. Par exemple, là, juste avant ce réveillon de Noël, là, j'ai fait Noël comme Père Noël avec toutes mes classes. Donc j'arrive en cours habillé en Père Noël. Mais les élèves, ils sont comme des dingues. Ils disent, Monsieur Flocari, mais on savait que vous étiez un peu parti et barré. Mais jusqu'à ce point-là, j'arrive en Père Noël, je leur donne des bonbons et je fais cours pendant 2 heures sur Spinoza ou Nietzsche.
En Père Noël.
En Père Noël.
Oh, c'est génial.
Et j'ai fait aussi le Père Noël de l'amicale de mon lycée. Un certain nombre de fois. Et je suis arrivé en moto, entièrement décoré en Père Noël, avec des fumigènes dans la cour du lycée la nuit, ou en voiture décapotable aussi par le toit, habillé en Père Noël. voilà. Ça, c'est un cadeau que tu fais ou vraiment.
Attends, tu fais partie des motards Père Noël qui défilent là ?
Je suis sur Insta, je suis dans le stream de mes élèves depuis longtemps, mais bon. Mais pour revenir sur la fête là, et sur ce moment des cadeaux. Ce qu'il faut, c'est qu'au moment de la confusion sous le sapin, quand tout le monde les ouvre, et d'ailleurs, aucune famille n'a le même protocole. Ça peut être histoire d'embrouille, ça.
Ouais, c'est vrai.
Est-ce que tu fais les cadeaux
le 24 ou le 25 ?
Non, déjà le 24 et le 25, premier truc.
L'apéro, 24, souvent, à quelle heure ? C'est pour calmer les gosses aussi.
Ah ben moi,
tu le fais, tu fais avant l'apéro, hein. Comme ça calme tout le monde, tu vois.
Ah ben moi, je vais dire que moi je suis long, tu sais ce que je fais, moi je tape sur la table comme ça, tout doucement, avec tous mes neveux, avec mes enfants et tout, j'énerve tous les oncles, les tantes, les grands-parents et tout, je fais les cadeaux.
Et c'est toi qui fais le Père Noël,
cadeaux.
Du coup.
Et ouais, bien sûr, et je donne les cadeaux.
Mais attends, mais plus personne n'y croit dans la famille.
Non, puis attends, je pars, je fais semblant que je vais, hein, et je reviens habillé en Père Noël.
Oh, tu peux faire la voix de Père Noël ?
Non, je fais un vieux papa comme ça, il va voler des cadeaux.
J'adore.
Je fais le pépé, tu vois, j'arrive avec des petites lunettes et bam, comme
j'adore.
Ça.
J'adore,
c'est trop drôle.
Mais les enfants adorent et ça stupéfait même les. Alors, le pire, hein, c'est quand t'arrives, crois-moi, hein, quand t'arrives dans. une salle de classe ou dans le couloir. Tu passes dans le couloir. Mes élèves, ils voient toujours en costume, cravate, gilet, ou etc. Et ils voient le Père Noël passer pour arriver à avoir
mon cours. C'est hilarant.
Et une fois, je suis prof à l'INSEP. Et une fois, à l'INSEP, à l'Institut National du Sport, il y a une petite voiture, qui est une petite voiture comme une voiturette de golf, qui permet de transporter les personnalités et tout, machin. Et une fois, j'étais déguisé en Père Noël dans mon cours. Et j'ai un de mes amis, un de mes collègues avec qui on est potes, et on se fait des blagues et tout pendant nos cours, surtout à Noël. Je vois le gars qui descend de la voiturette, et je suis parti, j'ai volé la voiturette, et je faisais le tour du bâtiment en Père Noël avec la voiturette, avec tous les élèves qui tapaient aux fenêtres. C'est ça l'esprit de Noël, Anna.
C'est hilarant. T'as déjà surveillé des partiels. Il y a les partiels souvent qui sont juste avant.
Ils sont en janvier.
Fois, on avait les écrits avant et les oraux après.
Ça, c'est plutôt quand t'es en prépa, les concours blancs et tout.
La surveillance de partiels en Père Noël, ce serait incroyable.
Ah, c'est drôle.
Ça déstresse.
J'avoue, ça déstresse.
Ça apaise un petit peu. Léa, Alicia, chez vous, les cadeaux, c'était plutôt avant ou après la nuit?
Moi, c'était à minuit.
Ah ouais?
Ouais.
24 minutes. Mais quand t'étais petite?
Oui. On restait éveillé jusqu'à.
C'était la fête. Ouais. C'était la fête. Ça, c'est quoi? C'est à l'apéro?
Ah, moi, c'est à l'apéro, les gars.
Moi, j'ai connu le 25 au matin. Hein.
Moi aussi.
Où t'es là, tu dors, mais tu t'as plus d'insomnie, t'as plus d'envie d'aller voir là-dessus. Et après, ils ont compris que pour nous calmer, il fallait nous jeter. Tu vois, tu jettes de la viande aux fauves.
Et puis t'es tranquille pendant le dîner, si les gamins.
Ouais, c'est ça. Mais souvent, avant, ce qui se faisait, c'était que les cadeaux étaient mis par les parents nuitamment, pendant que les enfants étaient dans les chambres.
Ouais.
Et souvent, c'était les enfants qui, les premiers, te réveillaient par leurs cris et leurs bruits, et les paquets qui s'ouvraient, parce qu'ils allaient à 5-6 heures du matin. Et dans Survivre à Noël, j'ai écrit un chapitre qui s'appelle L'aube des enfants rois, et où je raconte ce moment particulier que moi j'ai vécu, quoi. Des fois c'était à minuit, ou des fois c'était le lendemain, mais le lendemain c'est encore mieux parce que tu parles à la nuit, tu vas frustré.
J'avoue, moi, le seul Noël que j'ai fait de voir mes neveux se réveiller le matin, et tu sais, la tête d'un bébé qui vient de se réveiller et qui d'un coup, oh les cadeaux!
Voilà,
c'est incroyable.
C'est un moment.
Du coup, c'est plus sûr qu'il passe pour vous, le Père Noël enfant, parce que tu en as parlé un peu au début, est-ce qu'on y croit? Moi, enfant, c'était juste un accord tacite avec mes parents que je m'étais fait toute seule. Je vais leur laisser croire que j'y crois parce que j'aimerais bien que les cadeaux continuent à arriver.
Mais
je n'y crois pas du tout parce que j'ai aucune preuve matérielle et vraiment, je ne pense pas qu'ils puissent aller dans toutes les maisons. Donc, ça, c'était mon point de vue. En revanche, je croyais très fort aux cloches, parce que je les avais vues, avec du chocolat à côté, à la petite souris, parce que j'avais vu je ne sais quoi, qui m'a fait croire. Tous les autres trucs, j'y croyais.
Mais les cloches, par contre, je trouvais ça débile. J'étais là,
Je connais pas ce
truc. En gros, c'est la tradition, mais ça y est de moins en moins, je crois, parce que quand même, Pâques, c'est vraiment la fête chrétienne par excellence.
Alors moi, c'était pas un truc croyant.
Oui, mais de base, c'est dans notre culture,
c'est
une fête chrétienne. C'est ça, beaucoup plus que Noël,
bien sûr.
Et du coup, je crois qu'on en parle de moins en moins, mais en tout cas, quand on était petite, on nous disait qu'à Pâques, il y a des cloches
qui
passent, et en fait elles font ding ding ding, enfin dans le ciel, quoi, et elles font tomber plein de chocolat, et après tu vas chercher les œufs de Pâques dans le jardin.
Et le lapin, et le lapin de Pâques aussi.
Des cloches.
Ouais. Tu vois ce que je veux dire?
Sauf que moi les cloches, je les avais vues. Donc il y avait preuve. Père Noël, jamais.
Tu mettais quoi de ta famille dans le truc? Toi aussi t'avais du vin rouge à table? Ça n'allait pas du tout. Dans le médoc, on avait ça après, toi, je sais pas.
Ouais.
La petite goutte, là. On te fait goûter le vin, t'as la petite goutte de vin comme ça dans ton truc.
Mais cette question du mensonge, c'est quand même hyper important parce que les psys, depuis 20 ans, se sont vraiment penchés là-dessus, sur les effets négatifs ou pas, parce que beaucoup de parents s'inquiètent de ça. En fait, il y a deux grands secrets que les enfants doivent percer à un moment ou à un autre, entre, disons, 6 et 8, 6 et 10 ans.
Il y a la naissance aussi.
Voilà, un, c'est le secret de leur fabrication. Donc ça va assez vite, parce qu'évidemment, dans les écoles, quand tu mets ensemble dans la cour de l'école, avant, on séparait des fois les CP des plus grands, il y avait une récré pour pas qu'ils se fassent taper ou embêter. Mais c'était ça, non, c'est vrai. Et du CP au CM2, t'as des expériences complètement différentes. Donc il y en a qui s'amusaient à le dire aux plus jeunes, mais le Père Noël, il y en a qui veulent se bercer d'illusions encore longtemps. Il y a des familles qui insistent. En tout cas, ce que disent les psys, c'est que ça nuit pas du tout. Enfin, je veux dire, c'est pas une contradiction performative de dire à un enfant toute l'année, dis la vérité et je t'ai menti pour le Père Noël. Mmh. Il comprend très bien que c'est un mensonge pour la bonne cause, quoi. Mmh. Il nous en veut pas, en général.
On va écouter un titre avant de poursuivre et de finir presque cette discussion sur les cadeaux, sur Noël, donc, mais pas que, avec des questions telles que, on va y revenir, faut-il rendre les cadeaux des ex, puisque les nôtres ont été mentionnés pendant cette émission, Léa, mais aussi la question de l'écologie et de la consommation, offre-t-on trop de cadeaux. Mais tout de suite sur Move, c'est Charlie XCX, Everything is Romantic. Again and again, riding roads to manual drive. Bad tattoos on leather tan skin, Jesus Christ on a plastic sign. Early nights in white sheets with lace curtains, Capri in the distance. Bad tattoos on leather tan skin, Jesus Christ on a plastic sign. All in love again and again, winding roads to manual drive. Bad tattoos on leather tan skin, Jesus Christ on a plastic sign. All in love again and again, winding roads to manual drive. Early nights and white sheets of lace curtains, Capri in the distance, in a place that can make you change. All in love again and again, early nights and white sheets of lace curtains, Capri in the distance, in a place that can make you change. All in love. Everything is stirrups of the scooters, neon orange drinks on the beach, four generations make up a family. Lemons on the trees and on the ground, sandals on the stirrups of the scooters, neon orange drinks on the beach, four generations make up a family. Early nights and white sheets of lace curtains, Pompeii in the distance, in a place that can make you change. Fall in love again and again. Early nights and white sheets of lace curtains, Pompeii in the distance, in a place that can make you change. Fall in love again and again. 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 Again and again, falling off 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 again and again. Again and again, falling off 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 again and again.
Tunnel, le bruit et l'humeur.
Avec Anna Toumazov.
C'est infortuné.
C'était Abel 31 sur Move à l'Isle.
Jusqu'à 21h.
Jusqu'à 21h.
Tunnel.
Tunnel.
Et bienvenue dans la fin de ce tunnel. Ce soir, je suis avec mes invités Dina, Alicia Eyes, Stéphane Flocari et Léa Germano pour parler des cadeaux. Et je le disais juste avant, alors au-delà des ex, on en a beaucoup parlé, faut-il rendre les cadeaux aux gens à qui on ne parle plus ? Instinctivement, j'ai envie de dire non, mais il y a plein de gens pour qui ce n'est pas une évidence sur Internet et qui nous disent qu'on est supposé rendre les cadeaux.
Ouais, non.
J'ai
vu beaucoup de mecs sur Twitter. Bon, après, voilà, encore une fois, c'est un endroit particulier. Qui disaient que les meufs qui ne rendaient pas les cadeaux aux mecs qui les avaient payés étaient des michetons.
Ah, est-ce que t'as vu des meufs mettre ça sur Twitter?
Mais non, mais tu vois ce que je veux dire.
Voilà.
Ouais, le prisme, il est quand même.
Justement, en parlant des femmes, d'ailleurs, il y a de nombreux articles sur la charge mentale chaque année à Noël, ces dernières années, sur le fait que c'est les femmes qui pensent aux cadeaux. Et c'est aussi, majoritairement, et c'est aussi un moment qui peut être compliqué pour les femmes, un moment notamment des repas de famille. Donc en fait, il y a toute la charge de l'organisation qui repose sur elles. Est-ce que c'est le cas dans votre famille ?
J'ai une micro-anecdote, j'ai vraiment failli m'embrouiller avec mes frères très 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 sévèrement les 3-4 dernières années, à chaque fois qu'il fallait décider de ce qu'on offrait aux gens dans notre famille, parce qu'on décidait d'offrir en fratrie. J'ai deux petits frères. Et en fait, comme j'étais l'aînée et comme je suis une femme et donc j'ai globalement plus de charge mentale et que je m'organise et j'essaie d'éviter des situations désagréables, j'essaie de choisir des cadeaux à l'avance, d'anticiper, chose dans laquelle je n'étais pas soutenue du tout et j'ai vraiment failli péter un plomb. Et je me suis mis une alarme dans mon agenda le 31 décembre l'année dernière, je crois, pour cette année, qui dit « Ne fais pas tes cadeaux avec tes frères ». Et je ne l'ai pas fait cette année. Et c'était merveilleux. Pas d'embrouille, pas de message. Ils se sont débrouillés tout seuls. Ils étaient
dans
la merde.
Ils ont trouvé des cadeaux.
Je ne leur ai pas donné d'aide. Moyen, mais c'est la première fois qu'ils le faisaient.
Non, mais la question que ça pose, la question de la restitution. Normalement, un cadeau, c'est unilatéral. Donc, je donne quelque chose à quelqu'un, ça n'est pas un échange. Je ne te donne pas quelque chose et tu me donnes autre chose en échange. Sinon, c'est un investissement, c'est un échange. Économiquement, c'est autre chose. Mais à l'intérieur du cadeau, on peut penser le cadeau de deux manières. On peut le penser comme un don ou comme un présent. Si c'est un présent, c'est quelque chose que je donne à quelqu'un et qui, normalement, lui appartient. Si c'est un don, je peux le penser comme un gift. C'est la différence entre un gift et un present, si je le prends avec l'anglais. Et le problème, c'est que si quelqu'un perçoit le cadeau que je lui fais comme une sorte de gift, une sorte de dotation que je lui donnerais pour le faire mousser, pour le faire valoir, pour lui montrer mon amour, etc., ça devient une sorte de truc qui, à la bourse de notre amour, montre là où est ta valeur. Elle est basse ou elle est haute.
Bien sûr.
Moi, je veux dire, une des choses que j'ai apprises de mes parents, vraiment petit, et je me rappelle, mes parents disaient systématiquement ça quand il y avait des cadeaux, parce que la question se posait, t'es une grande famille d'Italiens du Sud qui s'offrent plein de choses avec beaucoup d'affection, etc. Bon. Et mon père disait toujours, si tu peux offrir beaucoup, c'est que t'as beaucoup. Si tu peux offrir peu, t'offres quand même beaucoup si t'offres le peu que t'as. Donc c'est pas une question de quantité, une question de jauge, etc. Bon, le problème c'est qu'un objet dans la société, quand il circule, il a deux types de valeurs. Il a ce que les économistes appellent une valeur d'usage et une valeur d'échange. Donc la valeur d'usage, c'est l'utilité que je vais en avoir. Si j'ai un caddie tout rouillé, pourri, que j'habite sous un pont, c'est très utile pour moi parce que c'est ma valise et ma maison. Par contre, il ne me sert à rien si j'ai un appartement dans le 16e. Bon. Mais le problème, c'est que les objets, ils ont une deuxième vie au-delà de leur utilité. Ils peuvent avoir une valeur d'échange. Et dès aujourd'hui, n'est-ce pas ? Dès le 26 décembre, eh bien, on a des gens qui revendent immédiatement parce qu'ils voient la valeur d'échange et pas la valeur d'usage. Et de plus en plus, là, nos éducations un peu plus classiques, corsetées, craquent sur cette question. Est-ce que j'ai le droit ? Par exemple, nous, dans notre génération, la question c'était, on m'a offert une veste bleue. Est-ce que j'ai le droit de dire que j'en voulais une verte ?
Ouais.
Est-ce que je peux, même pas revendre le cadeau, est-ce que je peux le changer ?
Bien sûr.
Parce qu'avant, l'intention portait le geste total d'autrui et le sens qu'il avait accordé. Je t'avais acheté une veste verte justement parce que tu ne mets que des bleus et je voulais que tu mettes la verte. Donc dans le cadeau, le cadeau est une sorte de tremblement avec des répliques. Il y a des répliques derrière sismiques qui font que ah bah ouais, mais on m'a offert ça, ça vaut beaucoup d'argent, ou je lui ai offert ça, il faut qu'il me le rende. Là, ça parle de l'amour qui continue et qui continue mal et qui grince, quoi.
Et justement, on parle de modernité dans le rapport au cadeau. Est-ce qu'on se ferait pas un petit peu retourner un peu le cerveau, un peu matrixé par les réseaux sociaux pour offrir des cadeaux à toute occasion? Donc c'est la Saint-Valentin, c'est Noël, Black Friday, il faut profiter, etc. Est-ce que la façon dont on a de fonctionner générationnellement maintenant n'incite pas à acheter trop de cadeaux, trop de biens?
Ouais, je pense que si. Après, personnellement, j'essaye de pas rentrer dans ces trucs-là. Enfin, j'essaye de pas rentrer dans ce moule sociétal de capitalisme, surcapitalisme. C'est vraiment pas du tout comme ça que je fonctionne. Si tu fais un cadeau à Noël, c'est certes parce que je suis influencée, parce que c'est Noël, etc. Mmh. Mais c'est avant tout parce que j'ai envie de faire un cadeau à Noël. Je crois que j'ai fait des cadeaux à Noël qu'une année. Bon, c'est l'année où j'ai eu les fameux chaussons et j'ai dit bon, c'est bon, j'ai donné. Mais parce qu'en fait, j'ai pas envie de me forcer à faire un cadeau juste parce que c'est Noël. Si j'ai envie de faire un cadeau, c'est parce qu'avant tout, bah, comme tu dis, ça doit être quelque chose qui fait plaisir. Sinon, ça marche pas, en fait. Ça pourra pas être aussi vrai. Et le cadeau pourra pas faire autant plaisir, je pense, à une personne que quand c'est inopiné, comme ça, au pif, et que tu reçois un cadeau pour aucune raison ou pour une petite réussite, ou même toi, tu te serais pas fait toi-même un propre cadeau. Mais c'est quand même assez fou que ça engraine autant les gens. Moi, je vois les potes et tout, la pression qui se mettent pour acheter un cadeau pour la Saint-Valentin, acheter des cadeaux pour Noël à le neveu, la tante, le cousin. Ouais. Enfin, c'est quand même assez fou, quoi.
Alicia, t'as une petite fille, toi, Tamalia.
Oui.
Comment tu gères les cadeaux par rapport à elle? Est-ce que tu es une maman gâteau, ou est-ce que justement tu les réserves à certaines occasions et t'essaies de faire, je sais pas, tel ou tel type de cadeau? Comment
Là, ce n'est que son deuxième Noël, du coup. Donc elle n'a pas, conscience des choses, ouais. Et c'est ce que j'essaye d'expliquer à la famille, aux proches, enfin, à tous ceux qui souhaitent lui faire un cadeau, c'est que ça sert à rien de dépenser énormément d'argent à cet âge-là. Les enfants, ça joue avec les lingettes, les télécommandes, ouais, les petits sachets qui traînent, ça joue pas avec les jouets, enfin, ils restent concentrés dessus 5 minutes,
ouais,
alors que des fois les gens ils mettent 200€ dans ça, et finalement l'enfant il préfère jouer avec les habits, les chaussures. Donc franchement, moi je préfère me concentrer sur ce qui est nécessaire à son quotidien que trop de jouets. Alors elle en a, hein, mais enfin, à juste mesure, quoi. C'est pas, il y en a pas en quantité. Je préfère la rendre un peu responsable à ce niveau-là et pas qu'elle soit débordée de jouets, et pour pas qu'elle soit non plus trop gâtée, il faut qu'elle le soit,
bien sûr,
mais pas non plus en overdose, quoi.
Mais c'est hyper bon signe, en plus, de se dire que même si on est de plus en plus poussé dans une hyperconsommation, bah, chez les enfants, ça bouge pas, il y a une nature immuable qui fait que parfois tu vas leur donner une feuille de papier pliée comme ça,
mais
ils vont jouer avec.
Ils sont contents, vraiment. Non, mais je le vis au quotidien. Ça sert vraiment à rien de dépenser trop d'argent.
C'est dur de faire des cadeaux aux enfants et aux tout-petits, surtout, je trouve. Et moi, j'ai une filleule qui vient de naître et j'ai
Sophie
vu avec
la
sa mère.
Girafe, hein, tu sais,
je vais mettre de l'argent sur son compte.
Mais voilà, mais moi aussi, c'est ce que je fais.
Comme cadeau, ouais, mais à 18 ans, elle
ça lui servira. Mais exactement, moi, j'ai deux filleules. C'est comme ça que j'ai fonctionné jusqu'à très longtemps. Hein. Je préfère investir sur eux pour plus tard.
Bien sûr.
Investir sur leur avenir, du moins, que acheter trop de choses dont ils vont pas du tout
puis ça sert à rien, moi, mes neveux, j'aurais fait des cadeaux, ils ont joué avec les emballages.
Ouais.
Oui, je voulais encore, on l'a beaucoup dit, au-delà des objets, il y a l'intentionnalité, il y a moment passé ensemble, il y a tout ça. Et on parle beaucoup, ça arrive dans cette émission, qu'on aborde notamment quand on parle de relations, la question des langages de l'amour. Et il y a effectivement les cadeaux, les présents, mais il y a aussi le temps passé de qualité ensemble, les petits mots, les gestes, les services. Et c'est très important aussi. On va continuer tout en poésie avec toi, Dina, pour ton live. Qu'est-ce que tu vas interpréter?
Je vais interpréter un morceau qui me tient beaucoup à cœur, en vrai. Ça s'appelle « Que reste-t-il ?» Et l'histoire de cette chanson est assez simple. J'ai toujours été à demi-mesure entre m'engager ou détruire ma santé mentale, m'informer ou ne pas m'informer pour pas péter un câble. Et je sais pas, c'était juste un peu avant quand les JO ont commencé, qu'il y a eu en plus la situation à Gaza qui se détériorait, le conflit au Congo, enfin il y a eu un genre de trop. Et mon Instagram, je sais pas pourquoi, en une journée, m'a balancé mais toutes les informations que je ne voulais pas lire depuis des mois. Et ça a été un peu un coup de trop. Du coup, j'ai écrit ce morceau pour donner du soutien, de la force à tous les gens opprimés et pas bien, quoi.
Voilà. Eh bien, on t'écoute tout de suite, Dina, sur Move.
19h21.
Tunnel, le bruit et l'humeur.
Anna Toumazov.
Encore un génocide sur les journaux, des mots tristes. Ça me rend émotif sur les murs de la city. Graffiti Free Palestine, ils les effaceront demain. Mais c'est pas ça qui t'émotive. On a les cartes entre les mains, pas moyen de les laisser faire. On va pas se laisser taire, y'a trop d'innocents qui saignent. Trop de morts, de misère. C'est pas des présidents, c'est des chefs de guerre. C'est nous la résistance, comment faire l'air de R. Parfois je me demande si on vit tous sur la même planète. Y'a des gens sous les bombes et on parle que des JO sur les ondes. On a laissé le pouvoir à des mecs pas nets. Et ça me rend jusque sous les ondes. C'est pour nos frères à Haïti, au Congo, en Kanaki, pour la Syrie, la Palestine, tous les autres pays, pour toutes les âmes meurtries, sachez qu'on vous entend d'ici. Ne laissez pas taire vos cris, on s'arrêtera pas avant d'avoir justice. On s'arrêtera pas avant d'avoir justice. On s'arrêtera pas avant d'avoir justice. Que reste-t-il de notre humanité, de Gaza à Paname, tout ce concerné? Ce qu'on regarde sur l'écran télévisé. Pour d'autres, tu sais, c'est la réalité. Les cours d'histoire ne nous ont-ils rien enseigné? 2024, on se tire encore dessus pour une divinité qu'il a jamais demandé. Les mères pleurent, les pères ont peur. Sens-tu les cœurs se serrer? Même en terre brûlée, il reste une fleur. Faut pas la laisser faner, elle se trouve dans nos cœurs. C'est pour nos sœurs à Haïti, au Congo, en Kanaki, pour la Syrie, la Palestine, tous les autres pays, pour toutes les âmes meurtries, sachez qu'on vous entend d'ici. Ne laissez pas taire vos cris, on s'arrêtera pas avant d'avoir justice. On s'arrêtera pas avant d'avoir justice. On s'arrêtera pas avant d'avoir justice. C'est l'heure de crier très fort qu'on va pas s'arrêter là. Nous on rêve comme le faisait Mandela. Un monde où on s'accepte, où on se respecte. Peu importe la gueule, peu importe l'âge, la religion, le genre ou le langage. Où personne fuit les balles. Où personne fuit les balles. Où personne fuit les balles.
C'était Dina sur Move, merci.
Merci.
Tunnel, le bruit et l'humeur.
Avec Anna Toumazov. Et c'est la fin de ce tunnel. Il restait des milliers de questions que nous aurions pu nous poser. Mais malheureusement, l'émission ne dure pas 4 heures. Si ça ne vous va pas, vous pouvez toujours écrire à Radio France. Ne vous inquiétez pas, ils verront bien vos courriers. C'est l'heure du coup pour moi de dire au revoir à mes invités. Tout d'abord, toi Dina qui vient de chanter. À bientôt.
Bah, à bientôt, merci.
Où est-ce qu'on peut te retrouver ?
Alors gros moment important, il y a deux dates qui arrivent en janvier. Donc il y a la première, c'est le 16 janvier au Bijou pour les Toulousains. C'est un concert de moi.
T'aimes beaucoup Toulouse, il y a le Rose Festival, le Bijou.
J'habite à Toulouse, hein, je suis toulousaine.
Ah, j'avais pas capté.
Et oui.
Autant pour moi. On va parler après d'où t'habites, etc. Parce que là, j'ai envie de poser des questions.
Allez, let's go.
On va rendre l'antenne.
Mais ouais, du coup, pour les Toulousains, c'est ma première date où je suis en tête d'affiche, donc venez. Il n'y a pas beaucoup de place, ça va être vite complet. Et pareil, 31 janvier au café. Non, c'est plus le café de la danse parce qu'ils veulent pas de la Palestine. C'est aux Étoiles. Voilà. Et là, ça va être un grand moment aussi, donc faut sold out cette date, les gars.
Merci beaucoup, Dina, et à bientôt.
Merci.
Alicia, où est-ce qu'on peut te retrouver ?
Non, en sur ce les moment, réseaux, sur les réseaux, c'est ça. Sur les plateformes, Alicia Elie sur les réseaux, et mon nom d'artiste, c'est aussi celui-ci, donc voilà, n'hésitez pas à rester connecté et à suivre un peu tout ce que je fais.
Merci beaucoup Alicia. Donc Alicia Elie sur toutes les plateformes. Stéphane Flocari, où est-ce qu'on peut te retrouver ?
Ben là, je prépare deux gros projets. Un livre sur l'attente, sur toutes les attentes, toutes les formes de l'attente, que j'espère sortir, publier à l'automne prochain. Et aussi une bibliothèque idéale de Nietzsche, où je vais retraduire et recommenter tous les plus grands textes de Nietzsche.
Nietzsche avec qui tu travailles depuis des dizaines d'années, enfin avec qui tu travailles, sur qui tu travailles
depuis une trentaine d'années, ouais.
Eh bien, merci beaucoup Stéphane et merci. À bientôt. Et enfin, Léa Germano, où est-ce qu'on peut te retrouver? Sur les réseaux, là, à la caserne?
Sur les réseaux, absolument, Studio Paillettes et à la caserne. On a notre boutique où on accueille tous les gens qui veulent passer à Paris ou qui habitent là. Donc c'est aussi l'occasion à Noël, puisqu'on a, on a tous ceux qui ont reçu de l'argent et qui veulent s'offrir une expérience. Vous pouvez venir au showroom, à la boutique, prendre rendez-vous ou passer comme ça et tester en fait, et vous amuser avec votre style et tester le concept.
Et louer une petite tenue du coup.
Voilà, louer une tenue pour le nouvel an, puisqu'on est le